Et maintenant, un bon boîte de casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Thibaut Gruel. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Thibaut, tu es responsable du pôle jeu de société de Yello, principalement?
Oui, tout à fait, c'est moi qui fais un peu du sourcing au niveau des produits, qui fait des tests avec des joueurs, des groupes de joueurs, pour décider à peu près est-ce qu'on fait tel ou tel jeu. Il y a des fois la question se pose, des fois la question ne se pose pas, mais voilà, il y a certains jeux, pour pouvoir les tester, c'est moi qui suis en charge de tout ça.
Ouais. Alors Yello s'est fait vraiment connaître sur la scène du jeu de société en tant qu'éditeur en 2009. On l'a vu apparaître vraiment, mais Yello existe depuis très longtemps en fait, mais dans d'autres activités qui sont proches du jeu, mais pas aussi proches du public peut-être.
Alors en fait, Yello au départ était une boutique de vente en ligne de jeux de cartes à collectionner, qui progressivement a vu les demandes de certains professionnels qui pouvaient pas se fournir chez des gros fournisseurs, et donc a commencé à se tourner vers la vente vers les professionnels. Et en 2008. Donc en fait ça s'est décidé à SN 2007, mais en 2008 on a produit notre premier jeu qui s'appelait Noroshima. D'accord. Noroshima X en français.
Juste, ok. Et donc Yello s'est installé en tant qu'adaptateur francophone de jeux qui fonctionnaient déjà ailleurs.
Oui, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait il y a des jeux qui fonctionnent bien à l'extérieur, lequel on choisit, lequel on va traduire et lequel on va distribuer. Donc Yello a un gros avantage, c'est qu'on fait en interne la traduction, enfin, du moins on passe par des prestataires extérieurs, mais on fait la traduction et on distribue nous-mêmes les produits, donc forcément nos produits vont être bien distribués puisqu'on y croit.
Donc rajouter la couche éditoriale, effectivement, c'est déjà sur une excellente base, vous connaissez déjà le marché, vous connaissez déjà comment faire parvenir les boîtes.
Voilà, tout à fait, ça c'est notre force, c'est qu'on sait aussi la demande des gens. Par l'intermédiaire des boutiques spécialisées, eux ils ont des retours de gens qui vont les guider, donc nous on a aussi également des échos, ouais, par rapport à eux, et ça nous permet de savoir si un jeu peut être très bien, mais peut-être que commercialement il tournera pas, donc voilà, on sait exactement ce qu'il faut faire.
Voilà. Alors, qui dit éditeur dit, bon, c'est la question à 100 francs d'habitude, c'est la ligne éditoriale. Certains me diront, il n'y a pas de ligne éditoriale. Bon, voilà, il y a des choses qui vont être refusées chez Yello, il y en a d'autres qui vont accueillir les bras ouverts. Lesquelles, qu'est-ce qui rentre dans ces critères-là?
Alors là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Effectivement, il y a des choses qui peuvent être refusées chez Yello, bien sûr. La ligne éditoriale, au tout début, c'était jeux spécialisés, core player, enfin voilà, les jeux bien compliqués, bien tordus. Et depuis peu, on commence à avoir des jeux pour enfants-famille. La famille commence à faire partie vraiment de notre gamme intégrante. Et en fait, on a différents labels. Donc on fait les enfants, on fait la famille et on fait les jeux player. En fait. Donc il est vrai que maintenant notre secteur d'activité se tourne vers ces trois pôles, donc on va dire oui, vous faites tout en fait. Oui, c'est un peu vrai qu'on va choisir, mais on a quand même une ligne éditoriale qui dit on veut des jeux avec du fond.
Alors, des exemples justement dans chacun des pôles?
Alors, par exemple, pour les enfants, on a un jeu comme Victor et le château mille miroirs. Donc, bon, qui va être enfant familial. Pour tout ce qui est familial, il y a Zack & Pack, on est dans la lignée de Cosmos. Il y a Quirkle, donc, qui arrive en mars, qui est un jeu vraiment familial et même pour les jeunes, puisqu'on n'a pas besoin de lire. Et pour ce qui va être des joueurs, la grosse actualité va tourner autour de Dungeon Lord dans les semaines à venir.
Ouais, et on a vu aussi des Space Alert qui était aussi du gros gamer et qui est sorti en version française il y a très peu de temps chez Yello.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors sur Space Alert, en fait, on est distributeur. Voilà. Et effectivement, depuis peu, puisqu'on a pris contact avec Sage Game Edition, il y a des choses qui se préparent pour Space Alert et on sera l'éditeur.
Ok, d'accord. Avec Noroshima X, en fait, vous avez été chercher des jeux qui sont plus du côté de l'Est de l'Europe. Hein. C'est l'émergence des Vladimir Vlatil et consorts. C'était aussi une volonté d'aller chercher des jeux qui, justement, bon, il y a le côté allemand, il y a la production allemande, mais il y a des joueurs émergents dans les pays de l'Est qui sont là maintenant.
Oui, tout à fait. Ça apporte surtout quelque chose, en fait. Parce qu'ils ont une fraîcheur. On voit Vlada, effectivement, lui, il est capable de sortir des jeux qui changent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Non, c'est vraiment très important pour nous. Et c'est vrai que l'Est de l'Europe a des créatifs qu'on connaissait pas du tout et qui ramènent des jeux, sur le marché qui sont innovants. Et c'est ça qui nous intéresse.
Donc Vladimir Vlatil, ça c'est un des auteurs phares de cette lignée-là, on va dire. C'est un peu lui qui a ouvert les portes, qui a montré, tiens, il y a des jeux du côté de l'Est. Quels sont les auteurs émergents que vous avez déjà identifiés?
Donc l'auteur de Stronghold, qui lui effectivement a fait beaucoup de buzz ces derniers temps. Bon, on le connaissait déjà puisqu'il était intervenu sur Noroshima. Et donc il a créé son jeu. Et là, on a des contacts de plus en plus à l'Est, en Pologne, en Tchéquie. Il y a Vladimir Sushi aussi, qui est très connu par Sage Game Edition. Voilà. Donc il y a d'autres auteurs. Pour l'instant, c'est pas encore finalisé. Et même avec des auteurs connus. On commence à avoir des contacts avec des auteurs connus.
Ok, donc ça veut dire que là, on a dépassé le stade de la traduction du jeu. On est vraiment dans l'édition.
Tout à fait. Oui, voilà, c'est le point auquel je voulais aborder par la suite. Là, actuellement, on a des protos en test, on commence à penser à l'édition, donc pour évidemment distribuer en France, dans les pays francophones, et voire même de manière internationale.
Okay. L'année 2010 est assez riche, hein, puisqu'on l'a vu, le Festival de Cannes a l'air d'être bien dense cette année, puisqu'on a, de votre côté, on a Dungeon Lord qui sort. Il y a une volonté de vouloir avoir, pas une sorte de flux tendu, mais une densité sur l'année.
Oui. Alors, on va pas non plus s'amuser à sortir 10 jeux dans l'année. On veut faire quand même du qualitatif. Alors, c'est vrai qu'avec Yellow, les gens confondent un petit peu parce qu'on distribue aussi d'autres boîtes d'édition. Il y a Yellow éditeur et il y a la distribution Yellow. Donc, c'est pour ça que les gens imaginent qu'on sort énormément de jeux. Comme on distribue également Play Factory, par exemple, ce sont des jeux de fond, ce sont des jeux que l'on trouve. Voilà. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une densité. Je pense que à un moment ou un autre, on va peut-être fonctionner en sachant très bien qu'on va sortir peut-être 4 jeux à l'année ou 2 jeux à l'année, on ne sait pas encore exactement. Mais sur Cannes, pour nous, on aura 2 jeux phares, Dungeon Lord et Queer Cup.
Okay. Avec cette logique maintenant de découverte de différents auteurs émergents, on a un panel suffisamment large pour se dire, tiens, est-ce que je dois sortir un jeu pour un salon qui arrive ou bien est-ce que je peux le sortir quand je veux ?
C'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, mais c'est vrai que on profite beaucoup des salons quand même, parce que c'est le lieu où on peut faire de l'événementiel et on peut repérer nos jeux. Il y a surtout aussi des salons maintenant qui sont très suivis par les joueurs, alors qu'avant, il y avait toujours des joueurs dans les salons, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a une régularité dans les salons, il y a des périodes bien précises, donc les gens ont l'habitude et donc on sait que ils vont canaliser du monde, et donc à ce moment-là, effectivement, c'est là où c'est le plus important de sortir les jeux. Opportun de sortir les jeux les plus importants. Maintenant, il y a des jeux, je vais pas dire secondaires, mais des jeux qui vont être moins tape à l'œil, plus ouverts sur, je dirais, comment expliquer ça plus précisément ?
Moins ciblé sur une communauté.
Moins ciblé sur une communauté, voilà, tout à fait. Où là, on peut sortir peut-être au mois de mai, en mois de septembre. En mois de septembre, il y a encore le monde du jeu, par exemple, voilà. Donc en fait, toute l'année est couverte par des salons importants. Donc finalement, on arrive toujours à trouver une sortie, un salon. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jeux qui sortiront comme ça, à un moment bien précis, parce qu'ils vont rencontrer un public beaucoup plus large.
Ouais. Alors, mars, c'est Dungeon Lord. Qu'est-ce qui va arriver après ? On peut déjà avoir une idée, c'est pas trop confidentiel.
Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de grandes révélations à faire. Les choses arriveront bientôt de toute façon. Mais pour l'instant, pour nous, le focus c'est Cannes, dans l'heure actuelle, puisqu'on vient de passer Nuremberg. Nuremberg nous a donné énormément de contacts pour Essen, où on va. Enfin, le salon du jeu. Enfin, je pense que le monde du jeu se passera après Essen cette année, d'après ce que j'ai entendu dire. Ouais. Donc, mais en tout cas pour Essen, il y a des contacts qui sont pris, des choses vont se décider et après Cannes, les annonces seront faites en fait.
Merci Thibaut.
Merci à vous aussi.
Donc c'était Thibaut Gruel, responsable des développements jeux de société chez Yellow.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci chers auditeurs et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.